J'avais dit à mon père, j'ai dit, père, un jour, je vais être millionnaire. Il dit, ben voyons, il dit, comment tu vas faire ça?
Ouais.
J'ai dit, je le sais pas, mais je vais le faire. J'avais 17 ans, puis je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'étais allé travailler chez Sherwood-Drolet. On faisait des bâtons de hockey.
Ouais.
Puis là, je regardais autour de moi, puis tu sais, je voyais mes collègues. Puis je me disais, coudon, qu'est-ce que je veux pas finir de même? J'ai commencé en janvier 2008, parce que c'était mon rêve d'avoir ma propre bannière. Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'on allait se planter. Puis la première année qu'on a ouvert, on a augmenté d'à peu près 35 %. Wow. Ça a été une bonne
35
affaire.
Puis t'as combien de mandats que t'avais? Je pense que
c'est... Bien, on avait à peu près 130 mandats, là, que je me souviens. Puis on a monté, je pense, 2-3 ans plus tard, on était rendu à 250. Là. Puis ce que ça m'a fait comprendre, c'est que tout ce qu'on a peur dans la vie, il y a vraiment moyen de le vaincre. Puis de prendre le dessus, tu sais, au lieu que ça te contrôle. Puis je pense que ce qui fait la différence d'un entrepreneur qui va vraiment réussir, c'est sa capacité à régler les problèmes, ouais, puis à trouver des solutions, exemple. Mes trois derniers terrains, j'en ai un dans le nord de Sherbrooke que j'ai mis la main dessus, que j'ai acheté. Là. Par exemple, j'ai payé 300 000. Celui-là, je l'ai fait évaluer. L'évaluation est sortie à 1 052 000 des mois après. Tu sais, c'est quand même... Un autre que j'ai fait en 2022, le 32 logements que je vous parlais tantôt, j'ai payé 920 000, j'ai vendu la moitié, 735 000 pour la moitié du terrain. Puis lui, que je vais notarier peut-être dans 3 semaines, 1 mois, j'ai acheté un terrain qui avait une église dessus, quand même un grand terrain, 100 000 pieds carrés.
Ouais.
Là, je vends la moitié du terrain, j'ai payé 1,6 million, puis je vends la moitié 1,6.
Bienvenue dans le ring immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Plancher 2000, Soutobli et Martin Ross, avec Jean-Sébastien Boiteau et Benoît Gagnon.
Francis, je suis vraiment content que tu sois là. Pourquoi? Parce que on est un peu chanceux, Ben. Francis a rarement fait ça, des podcasts.
C'est
un
gars.
Vrai, on brise la glace ensemble aujourd'hui. Good.
Puis je te dis pas ça. En fait, c'est que je pense qu'il est réservé à quelque part, Francis. Mm-hmm. Puis c'est pas quelqu'un qui est on voit partout puis tout ça. Mais quand les gens vont connaître son expérience et tout ça, mais en fait, je dis ça, là, mais en Estrie, ton nom est fait. Je peux te dire ça?
Me faire connaître,
oui. Ah, ouais,
dans le canton de l'Est, Francis, investisseur immobilier, mm-hmm, courtage immobilier, homme d'affaires.
On aime tout. Déjà, je suis excité par la rencontre qu'on a aujourd'hui parce que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup et que j'apprends maintenant. C'est ton métier depuis longtemps. Tu as été courtier avant de te concentrer davantage sur l'investissement immobilier.
Oui, oui. En 15 ans, je pense. En tout cas, merci pour l'invitation, là, juste par rapport à ce que tu disais. Je suis bien
Français.
Content d'être là.
Ouais.
Puis oui, j'ai été courtier immobilier pendant 15 ans. Puis on est parti, là, j'étais avec ma partenaire qui était ma femme à ce moment-là.
Ouais.
On est parti ensemble, l'agence La Fleur des Vies. Parce que c'était mon rêve d'avoir ma propre bannière. Moi, je voyais
quand
tu as
commencé, par exemple, tu as fait une année dans une autre bannière, tu étais tout seul.
C'est ça.
Pas dans l'idée de construire ou de t'associer avec quelqu'un pour l'instant quand tu as commencé.
Ben, je ne savais pas parce que ça a quand même grossi vite quand j'ai commencé. Ma première année, ça a été une bonne année.
Ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Non.
Tu as bien travaillé.
Effectivement.
Puis,
C'était en 2000?
J'ai commencé en janvier 2008.
Okay. Puis qu'est-ce qui a fait que ta première année a été fulgurante?
Bien, je dirais que quand je me concentre sur quelque chose puis que je veux que ça fonctionne, je fais vraiment tout ce qu'il faut puis je mets tout le temps qu'il faut. Puis je connaissais gros du monde aussi. On va s'entendre qu'en immobilier, ça l'aide beaucoup.
Ouais.
Fait que ça a fait boule de neige puis ça a grossi quand même rapidement. La première année, là, j'avais commencé dans ce temps-là chez La Capitale.
Okay.
J'avais fini... meilleur recrue de l'année au Québec. Là. J'avais sorti premier au Québec. Là,
rapidement, tu as fait ton nom aussi dans le milieu. Oui, oui.
Ouais.
Reconnu comme... T'as pas eu, il y a du chien. Le flambant neuf, le petit nouveau, il y a du chien en tavernouche.
Oui, puis je dirais que l'expansion a été encore plus quand on a ouvert l'agence. Là, ça a vraiment fait... c'était une bannière qui était vraiment à nous, qui a été créée à partir de zéro à 100%. Fait que ça nous a différencié un petit peu des Remax de ce monde et des autres bannières. Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'on allait se planter. Puis la première année qu'on a ouvert, on a augmenté d'à peu près 35 %.
Wow.
Fait que ça a été une bonne 35
affaire. 35 puis 35 % sur des chiffres vraiment impressionnants. Tu avais T'as combien de mandats que t'avais? Je pense que c'est...
Ben, quand on a lancé l'agence, on avait à peu près 130 mandats, là, que je me souviens. Puis on a monté actifs là, en même temps. Puis on a monté, je pense, deux, trois ans plus tard, on était rendu à 250. Là. Pour une équipe, dans ce temps-là, on était peut-être 8 courtiers. Là.
C'est huge.
Oui, ouais. C'est quand même...
Puis est-ce que tu t'es fait prendre à ton propre succès à un moment donné dans l'équation de dire « OK, j'engage, OK, il manque de personnel, on fournit pas en fait de... »
Je dirais qu'on a toujours été avec la croissance qu'on avait, mais la croissance était tout le temps un petit peu en avant de nos besoins. Là. Ouais. On engageait à un moment donné, on roulait peut-être à 5 ou 6 adjointes. À un moment donné, on en engageait une, ça roulait toujours un petit peu plus que les effectifs qu'on avait.
Okay.
Fait que ça avait toujours un petit peu d'avance sur nos effectifs, mais ça allait bien.
T'avais pas trop d'employés pour rien?
Non. On a pas mal toujours roulé à bien ce qu'il gagé. Fallait. Là. Ouais. Puis maintenant, avec ce que je m'occupe là, de mon parc immobilier de mon entreprise Ascensio, on est vraiment comme ça. Là. On est juste ce qu'on a de besoin comme effectif, ça va bien. Puis on va grossir les effectifs au fur et à mesure que le parc grossit. Mais non, ça, je trouve que c'est pas... Puis le monde ne sont pas bien là-dedans. T'sais, si tu as du personnel qui ne sont pas occupés, qui se tournent les pouces, qui ne savent pas trop quoi faire...
Exact.
Le monde n'aime pas plus ça non plus. T'sais, c'est pas bon pour l'employeur, puis c'est pas bon pour l'employé.
La dynamique.
Exact.
La dynamique de l'équipe.
C'est fou quand même que tu as su rapidement que tu voulais être ton propre patron puis avoir ton agence à toi. Est-ce que rapidement, parce que tu as une première année qui commence, boum, tout explose, ça va super bien.
Ouais.
Est-ce que rapidement, ça a solidifié ton plan d'avoir ton agence à toi? Parce que tu sais, ça va super bien, je suis capable de le faire, on peut le faire encore plus gros. Est-ce que c'est dans cette première année-là que tu as fait comme, oh mon Dieu, let's go, on le part, puis ça va bien aller? Ou?
Je dirais que quand j'ai commencé courtier, je me suis rendu compte que j'étais capable de réussir puis de faire quelque chose de bien.
Ouais.
C'est sûr que tu te fixes des objectifs de vente, de chiffres puis tout ça quand tu commences. Mais ça a peut-être pris, je dirais, 3 ans peut-être là, avant vraiment que j'aie ça en tête. Là, puis je m'en souviens, j'en parlais au bureau avec Cassidy puis notre autre adjointe à ce moment-là, qu'on parte notre propre agence, tu sais, puis c'était comme... C'était gros. Là,
est-ce que tu leur faisais peur avec ça? C'était comme des idées de grandeur.
Oui, je leur faisais peur. Ah, oui, je me souviens vraiment. un moment donné, justement, c'était beaucoup de temps.
Ouais.
Puis on travaillait un soir. Puis écoute, je pense que c'était rendu genre 8-9 heures le soir. Puis on était encore tout au bureau. Puis j'ai lancé cette idée-là. Parce qu'on n'avait pas tout à fait ce qu'on voulait dans l'agence qu'on était.
Ouais.
Puis la propriétaire d'agence à ce moment-là, elle, ce qu'elle veut, c'est que tous les courtiers soient contents. Elle ne veut pas qu'une équipe performe plus que les autres. Puis là, nous, ben, on voulait faire ci, on voulait faire ça, puis ça nous freinait un peu.
Je comprends.
Fait qu'à un moment donné, j'avais ça en tête, puis on en a parlé un soir, puis c'est sûr que ça paraissait gros, là, tu sais, ça paraissait quelque chose.
Puis l'étape après, quand tu décides de te lancer?
Graduellement, mais au début, on a négocié avec la capitale qui était devenue Via Capital pour avoir notre franchise.
OK.
Puis la personne qui s'occupait de... qui était le directeur, si on veut, là, à Laval, là, leur bureau chef, il est venu nous rencontrer. Puis au début, c'était ça qui était le plus facile. T'sais. On aurait resté un petit peu dans nos pantoufles. Là. Le site Internet, il est là. Le brand, il est là. Ouais. Les cartes d'affaires sont
ça
déjà
roule.
Faites. Ouais. Puis il est venu nous rencontrer. Puis on a vu qu'il voulait nous mettre des exigences. Là. Un minimum de courtier, un minimum de temps. Puis on voyait que, moi, une vraie entreprise, je veux en être mon propre patron. Je veux pas avoir...
Tu veux pas être limité.
Exactement.
Puis tu sentais que tu étais limité dans la proposition puis dans la vision que la personne avait à côté de toi.
Exact. Puis là, il voulait qu'on ait un territoire X parce qu'il y avait l'autre bureau qui était déjà à Sherbrooke. Oh. Puis je me souviens, après cette rencontre-là, j'ai dit à Cassidy, j'ai dit, lui, il pense qu'on vient de passer une entrevue, mais c'est lui qui ne l'a pas passé une entrevue.
En fait, il est venu vous aider à prendre la décision puis vraiment partir votre affaire.
Puis c'est un des meilleurs cadeaux qu'on m'a fait.
Il vous a donné la clé.
Exactement.
Exact.
Fait que je me souviens de ça. Je trouvais que c'est lui qui avait... pas passé l'entrevue
exact.
Qu'il y avait à faire.
Ben
puis
oui.
À partir de là, on a décidé que vraiment on s'enlignait. Puis c'était ça le plus difficile parce que tu repars à zéro. Tu repars, tu refais ton brand, tu fais ton site, le moindre petit texte sur le site Internet.
Tu as été créatif dans la façon de le faire. C'est que tu as prévu la situation.
Oui.
Puis par rapport au changement, je pense que tu étais organisé au niveau incorporation pour que ça se passe bien.
Oui, ça a été un bon coup là-dessus parce que quand tu te pars une nouvelle bannière, en réalité, les contrats appartiennent à la bannière.
Les contrats de vente que tu as
les contrats
versus
les
vendeurs.
Le vendeur des clients appartenaient à Via Capital en réalité. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais être le plus possible autonome avec mon équipe, avec mon monde. Fait que j'avais négocié avec la directrice puis plusieurs rencontres, puis j'ai été réussi à me créer une sous-franchise au sein de la franchise. Puis là, elle me disait, « Ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? » Parce que ces services-là, elle nous les donnait déjà. Là. Ouais. Puis nous, on a recréé le même système qui gère les courtiers, le Jimmy ou le... Il y a l'autre système là, de
le EasyMax.
Le EasyMax. Toutes ces affaires-là, on a toutes créé ça au sein de notre équipe pour être pleinement autonome. Uh-huh. Fait que ça nous a donné, du fait qu'on était une sous-franchise dans une franchise, un autre code d'agence, puis avec ce qui régit les courtiers, l'OACIQ,
ouais.
On était vu comme vraiment une autre agence à part entière.
Donc tout ça restait légal.
Tout ça suivait avec nous.
Oui. Fait que quand tu débranches, puis que tu rebranches ton agence.
Oui. Ouais.
Bien, il n'y a rien.
Et c'est ton agence à toi.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que sinon, on aurait pu perdre quand même beaucoup de contrats. Puis quand on a fait le changement d'agence, puis là, à un moment donné, ça s'est su parce qu'on a démoli un bâtiment pour bâtir nos bureaux. Puis là, ils ne savaient pas encore qu'on voulait partir de notre agence. Puis ça a sorti dans les journaux.
Oups!
Puis l'article qui est sorti dans les journaux, c'est un nouveau bureau pour Via Capital. Ah, c'est ça qui avait sorti, mais c'était pour la Fleur des Vies, pour notre agence. C'est là qu'ils l'ont su. Puis là, c'est sûr que ça a fait un petit peu de
friction.
De friction, ouais. Exactement. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que, ouais, tous les
contrats échappé,
vont
là.
Suivre avec eux.
Ouais.
Exact, exact. Fait que ça, j'étais vraiment...
Bien joué.
Ben c'est, content mais, de ça. Mais moi, je trouve que c'est bien joué parce que c'est une question d'affaires. T'es à ton affaire, puis tu sais, c'est légal.
Dans les règles de l'art.
Dans les règles de l'art, exactement.
Puis on l'avait travaillé, puis c'était nos clients qu'on s'occupait, puis... Mais ça a été une bonne chose parce qu'on n'a pas perdu de plume là, en partant
de ça. Ensuite de ça, Francis, tu as connu un beau défi aussi. Je me permets de m'en aller là parce que avec ton accord, je pense que c'est une belle histoire, somme toute, de ce qui est arrivé. Mais tu as parti l'agence avec ton ex-conjointe aujourd'hui.
Oui.
Puis ça a super bien parti au niveau des ventes et tout ça.
Ouais.
Mais il a fallu qu'à un moment donné, vous preniez une décision, je pense.
Oui, c'est sûr qu'on s'est séparés en 2018. Après, on était mariés 12 ans de vie de couple. On avait monté l'entreprise ensemble. Fait que c'est sûr qu'en 2018, quand on s'est séparés, on s'entend que ça n'a pas été facile. Puis là, ben, c'était de pouvoir continuer à ce que ça puisse évoluer en une relation d'affaires puis que tout ne prenne pas le bord.
C'est un beau défi, ça.
C'était, puis son bureau était juste à côté du mien, on s'entend. Puis on se voyait tous les jours. Oui. Quand tu te sépares d'une longue relation, tout ce que tu as envie de faire, c'est plus voir l'autre personne un temps puis pouvoir processer ce que tu as passé, tes étapes et tout ça.
Au pire, installer des vinciennes puis tu fais le vinciennes.
Ouais, c'est ça. Exact, exact. Fait que ce côté-là n'a vraiment pas été facile. Puis moi, peut-être 4 mois après ma séparation, elle m'est arrivée, puis je suis enceinte.
T'sais? Oh!
Fait que, puis
enceinte.
Ben c'est parce qu'une des raisons là, que j'ai pas dit, une des raisons de notre séparation, c'est qu'elle voulait un enfant.
Ouais.
Moi, j'en avais déjà un, puis j'étais plus là dans ma vie.
Ça devient un enjeu important. Là.
Exactement.
Parce qu'il y a la vraie vie, puis il y a les affaires aussi. Là.
Exact. Ouais. Exact.
Wow. Fait que
4 mois après, elle m'arrive avec ça. Puis je connaissais bien la personne, là, son nouveau chum, puis c'est correct, là, on avait réglé nos affaires, puis je respecte beaucoup ce qu'elle dit, là, j'ai rien à dire. J'avais fait mon choix, puis elle avait fait le sien, mais ça s'est fait quand même vite.
Ouais.
Fait que ça a été difficile de réussir à bien faire les choses.
Ben en fait, c'est juste une question que vous étiez au quotidien ensemble.
Mm-hmm. Exact.
Pas avoir de business, exact. Pas être au quotidien, c'est un autre.
Oui, mais il faut
autre...
se parler au quotidien, il faut prendre des décisions au quotidien, il faut gérer les
faire la part des choses entre les affaires et les émotions.
Oui.
Perso, ça, c'est pas évident.
Ah non, absolument. Puis ça m'a appris beaucoup à contrôler mes émotions parce que c'est facile de se laisser aller.
Oh mon Dieu.
Puis s'envoyer promener.
Ouais.
Puis tout le monde disait que le bureau allait fermer puis que ça allait pas continuer. Là.
Alors,
puis, on sait comment c'est la compétition hein, quand ils peuvent.
On sait comment c'est la compétition en immobilier.
Oui, ouais, exact. Exact. Ouais. Fait que tu sais, les gens, nos compétiteurs parlaient beaucoup que tout allait tomber à l'eau, puis ça n'a vraiment pas été le cas. On a continué à prospérer.
Mais vous avez été mature dans tout ça.
Oui, on s'est respecté.
De le gérer, puis de le faire entre adultes. T'sais.
Oui, puis quand tu passes 12 ans de ta vie avec quelqu'un, il y a une raison.
Exact.
C'est pas parce que c'est un ci, puis c'est un ça. C'est parce que la personne, elle a des bonnes qualités. Mm-hmm. Puis j'ai monté une belle entreprise avec cette femme-là que je respecte beaucoup.
Ouais.
Mais je me souviens d'un truc que je m'étais dit. Quand exemple, il y avait des affaires qui ne faisaient pas mon affaire, puis que j'avais envie de l'envoyer
promener.
Ouais. Je me disais, je vais être encore plus gentil avec elle. Puis c'est comme ça qu'on dirait que j'ai appris à me contrôler.
Ouais.
Tu sais, comment tu te sens dedans, mm-hmm. qu'il faut vraiment pas que tu écoutes ça, puis que tu te mettes à agir comme il faut pas.
Wow.
Ça a été un truc, ça, que j'ai fait. Quand vraiment, là, j'étais fâché ou j'avais envie de dire certaines choses, parce que c'est normal, là, ben j'avais des étapes à passer, puis elle aussi, ça a été pareil.
Ouais.
Ben, je me disais, je vais être encore plus fin avec elle, puis ça m'a aidé à apprendre à maîtriser bon mes émotions.
Ben, il y a plein de monde qui prennent des notes.
C'est
là,
ça,
okay,
exactement.
Oui, ouais, parce que on est pas mal plus fiers. Tu sais, quand on s'écoute sur le coup, puis qu'on est fâché, puis qu'on agit d'une façon qu'il ne faudrait pas, on va se satisfaire sur le coup, tu sais. L'ego, l'orgueil, mais ça, c'est jamais
c'est
les
éphémère,
bonnes décisions.
Tellement. Ça dure pas longtemps, ça.
Puis on le regrette tout le temps.
Ouais.
Fait que ça, c'est quelque chose que j'étais vraiment fier. Puis après, je dirais, j'avais lu un livre là-dessus, La séparation. Puis ça disait que normalement, t'en avais à peu près pour un mois par année de couple, t'en remettes. Puis moi, ça m'a pris un an. À dire vraiment, là, puis à réaliser que, ah, crime, sais-tu, je suis bien.
Ouais.
Puis j'ai une belle business avec Cassidy. Puis
ça se peut.
C'est le fun. Puis, puis savez-vous quoi? Je suis content pour elle. Elle voulait un enfant. Elle a un beau fils maintenant. C'est la vie qu'elle voulait. Puis là, moi, je me rends compte que, ah, ben moi, j'ai la vie que je veux maintenant.
Aussi. Ouais.
Mais tu sais.
C'est une belle façon de le voir et de l'accepter, je trouve.
Francis est une personne à succès.
Ouais.
On va dire les vraies choses. Mais il y a du travail dans ça. Mmh. Puis, au-delà de juste une réussite professionnelle, ben il y a l'histoire que tu comptes là qui est une réussite.
Je suis sûr que de l'avoir géré comme ça aussi quand c'est arrivé, que dans ta vie tous les jours, encore aujourd'hui, tu t'en sers.
Ah,
sans t'en rendre compte des fois ou même en
parce
t'en
que
compte. Ou...
Des fois, il m'arrive des choses, que ce soit en affaires, tu sais, comme l'exemple, j'ai fait construire beaucoup d'immeubles, j'ai acquis des immeubles. Ben ça m'a appris, oui, vraiment à me contrôler parce qu'il y a du monde qui agissent d'une mauvaise façon ou qui sont impulsifs ou qui font des affaires qu'ils regrettent, mais c'est toujours une question de manque de contrôle.
Ouais.
Fait que oui, ça m'a appris à travailler beaucoup le contrôle de moi-même, la maîtrise de moi-même, exactement.
Il est très gentil avec nous depuis tantôt. Je ne sais pas si parce qu'il voulait nous envoyer promener. Puis
non, c'est ça, exactement.
Non, non, non.
Il est ultra gentil, fait que je me dis peut-être qu'il veut nous envoyer chez le bonhomme. Mais Francis, tu parles de tes acquisitions. Je pense que tu as fait grandement ta place, surtout au niveau de Sherbrooke, dans tes investissements, que tu fais très bien. Tu as parti les investissements à quel moment et pourquoi?
En fait... J'ai toujours fait ça en même temps. J'ai fait ma première acquisition en 2007. J'ai commencé courtier en 2008,
okay.
Justement, parce que je m'intéressais à ça puis j'osais beaucoup avec des courtiers par rapport à ça. J'ai toujours fait ça sur le side, si on veut, là. Mais à partir du moment que je me suis séparé en 2018, là, j'ai commencé à vraiment développer beaucoup, là, à faire construire un immeuble après l'autre. Des fois, j'en avais jusqu'à trois en même temps là, qui est en construction.
C'est devenu ta priorité, ça, dans ta business, dans ce que tu aimais faire?
Tranquillement.
Ouais.
C'est devenu ma priorité, puis c'est devenu un petit peu plus la vision de la vie que je voulais.
Okay.
Parce que la raison pour laquelle j'ai vendu à Cassidy, une des raisons, c'est que on ne voyait pas tout à fait les choses de la même façon, puis c'est correct. On avait chacun notre idée là-dessus.
Ouais.
Puis moi, j'avais envie d'être capable de m'accomplir un petit peu plus dans autre chose, puis je me trouvais un peu trop dans mes pantoufles. T'sais, après 15 ans, j'étais habitué dans ce que je faisais, puis j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis du fait que je voulais avoir quelque chose que j'avais pas de limite, que j'étais un petit peu limité dans ce que je faisais dans l'agence, parce que Cassidy voulait qu'on reste plus local. Elle voulait qu'on reste l'équipe en Estrie. Moi, j'aurais aimé ça, pouvoir expansionner ça ailleurs, qu'il y ait un peu moins de limites. Puis son idée était bonne parce que ça va super bien.
Ouais.
Mais comme là, exemple, je viens de finir un projet à Québec. T'sais, je me suis sorti un petit peu de
chose que tu n'aurais pas fait nécessairement si tu étais resté dans le même concept, mettons.
Ben, c'est difficile d'amener une agence dans une autre ville. Il faut vraiment que tu aies quelque chose de spécial. Il faut que tu aies quelque chose qui innove pour que le monde embarque.
Alors que cette cassure-là t'a permis maintenant de pouvoir faire ce que toi, tu voulais faire.
Oui, parce que je me suis vraiment juste focussé là-dessus.
Ouais.
Puis j'ai vraiment fait des bons moves depuis une couple de mois, depuis que j'ai vendu. Puis je t'ai rendu là, puis à un moment donné, un parc immobilier qui prend une certaine ampleur, faut que tu t'en occupes parce que tu manques des bouts à un moment donné. Fait qu'il y a beaucoup de choses que... On a fait beaucoup d'optimisation, puis...
Quand tu te sens limité, j'ai l'impression que c'est là que tu donnes ou tu mets le pied dans le gaz encore plus.
Ouais.
Puis il y a une histoire que Francis m'a déjà contée, puis je vais te la laisser la compter, mais je trouvais ça vraiment représentatif de la personne que j'ai à côté de moi par rapport à l'usine Sherwood Hydraulique.
Ouais, ça c'est...
On va raconte-nous ça.
Oui, ça, c'est un déclic que j'ai eu. J'avais 17 ans, puis je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Puis j'étais allé travailler chez Sherwood-Drolet. On faisait des bâtons de hockey.
Ouais.
Moi, j'installais le fibre de verre sur la palette.
Okay.
Puis, écoute, on avait des quotas, là, puis je travaillais de nuit en plus. On avait des quotas de faire 1150 bâtons. C'était exactement ça, le chiffre par nuit. J'en faisais 1400-1500. Tu sais, moi, j'ai toujours été super compétitif. Puis là, ben le monde, voyons, c'est qui ça, Francis Lafleur? Pourquoi il fait des bâtons de même? Il monte nos quotas à nous, puis je n'entendais parler.
C'est trop vite pour nous.
Ouais, c'est ça. Puis,
tu mettais de la pression sur les anciens, là.
Ouais. C'est ça.
Ceux qui étaient là depuis longtemps.
Ouais, exact. Puis je n'entendais parler des Gojo, puis tout ça. Puis j'ai toujours été compétitif, mais là, ce que je vais en venir, c'est que je me souviens un soir, je dînais, notre dîner, c'était à 10h30 parce qu'on travaillait de nuit.
Ouais.
Puis là, je regardais autour de moi, puis tu sais, je voyais mes collègues qui mangeaient leurs spaghettis, exemple, avec accompagnement sauce tomate. Là,
ouais,
là.
Ouais.
Puis je me disais, coudonc, qu'est-ce que je veux pas finir de même? C'est pas
de frapper.
Ah oui, ouais, ça a été mon déclic. Mm-hmm. Ça a été mon déclic. Puis c'est pas que c'est mauvais. Ça dépend de ce que tu veux.
C'était pas pour toi.
C'était pas pour moi. Puis c'est là que j'ai eu mon déclic à me dire, c'est pas vrai que je vais finir ici. Là,
ouais.
Fait que, puis justement, ça a fermé cette usine-là. Ou c'est encore ouvert, mais ça fonctionne pas beaucoup. Mais bref, j'ai eu mon déclic que je voulais vraiment faire quelque chose puis que je voulais réussir.
T'es gentil. Tu me l'as décrit, mais il y avait une caricature encore plus.
Ouais.
Dans la cafétéria, mais on ira pas.
Ouais, non, c'est ça. Ah, exact.
C'est bon, mais...
Des fois, on a besoin de ça aussi, tu sais.
Ouais.
Un déclic,
ouais,
qui fait en sorte que tu dis, hey, c'est pas pour moi ça ici,
ouais,
ça va être autre chose. Puis cet appel-là, ben, tu l'as pris, puis... On voit ce que ça donne aujourd'hui.
Oui, ça, c'est un déclic que je me souviens. Puis quelque chose que je parle souvent avec mon père, je suis assez proche de mes parents. Quand j'avais 15 ans, j'avais dit à mon père, j'ai dit, « Pa, un jour, je vais être millionnaire. » Il dit, « Ben voyons, il dit, comment tu vas faire ça? »
Ouais.
J'ai dit, « Je ne sais pas, mais je vais le faire. »
Puis pour lui, dans sa mentalité, dans homme de son temps, il devait trouver que tu rêvais en couleur. Là,
oui, donc. Parce que mes parents, c'est pas des gens qui sont entrepreneurs. Ils sont plus travailleurs, ouais, puis c'est tout à leur honneur. Ils ont vécu pour nous, pour leur enfant.
Fait que tu as lancé ça de même.
J'ai lancé ça de même, puis on en parle souvent. T'sais, c'est loin d'être juste une question d'argent ou de chiffres, puis tout ça.
Mais c'est là que je m'en allais. T'sais. Mais maintenant, t'sais, monétairement, disons que tu l'as accompli, mais c'est quoi pour toi être millionnaire pour de vrai?
Honnêtement, là, pour moi, la vraie richesse, là, c'est le temps.
Ah ben oui.
Avant, toutes mes années de courtier, je travaillais du matin au soir à faire des clients, à répondre aux appels, à m'arranger pour que la transaction marche, à négocier au mieux pour mon client, puis c'était du matin au soir. Puis vers la fin, je me disais, il y a de quoi je fais de pas correct, tu sais. Puis pas contre, je suis contre cette profession-là. J'ai adoré mes années de courtier, mais je, ouais, me disais, pourquoi faut tout le temps que je butine comme ça pour être capable d'avoir la vie que je veux?
Ouais.
Puis au travers, mon parc se développait. Puis ça m'a vraiment donné, à partir du moment que j'ai vendu à Cassidy, ça m'a vraiment permis de faire la vie que je veux, d'avoir toute la maîtrise de mon temps.
Ouais.
Puis pour moi, ça...
Et ça revient à quoi, Ben?
Le taux horaire. C'est le fameux taux horaire, c'est son expression préférée.
Ben,
non, mais comme entrepreneur, tout est une question d'augmenter son taux horaire.
Ouais.
Ben oui.
Et pas nécessairement en argent, en temps, oui, aussi. T'sais.
Ben en fait... J'ai travaillé beaucoup pour l'argent.
Ouais.
C'est normal. Il fallait que j'en fasse de l'argent pour investir, ouais, pour être capable. Quand je dis que la vraie richesse dans la vie, c'est le temps, on s'entend qu'il faut que tu aies de l'argent pour en profiter.
Ouais.
Sauf que moi, je ne voulais pas arrêter à 70 ans puis que tu ne sais, ouais, pas ce qui peut arriver.
Ouais.
Là, j'ai 44 ans puis je voulais être capable de profiter de la vie puis d'être maître de mon temps. Puis c'est sûr que toutes les années de courtier que j'ai faites, puis j'ai toujours investi dans l'immobilier, dans mon parc, ça m'a permis d'avoir tout mon temps. Puis pour moi, c'est ça la vraie richesse parce que tu peux jamais regagner ton temps.
Ouais.
Tu peux jamais regagner ça. Puis ça, c'est vraiment important. Puis je trouve qu'il y a du monde qui travaille du matin au soir toute leur vie jusqu'à leur retraite. Puis il y en a
qui sont bien décèdent
pas longtemps après. Ouais. C'est triste, ça.
Ouais. Ouais. Ouais.
Fait que je dirais que c'est ça, moi, la vraie définition de la réussite et de la richesse. Puis juste un dernier petit point que je veux dire là-dessus.
Ben, tu peux prendre, ouais, plus de points si tu veux.
Pour moi, la vraie réussite dans la vie, c'est de me lever le matin, puis c'est de faire ce que je veux, comme je veux, quand
l'heure que tu veux.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis je vais toujours travailler. T'sais, je me fais souvent agacer parce que mes bureaux sont encore dans les bureaux que j'ai vendus pour, ouais, l'instant. Puis je me fais dire, Galil, le retraité ou le semi-retraité, je vais toujours travailler à tous les jours sur mes affaires. Ouais. Regardez, cet été, j'ai pris aucune vacances parce, ouais, que j'en ai pas besoin.
Ouais.
Parce que tu es en vacances tous les jours.
Exact. Ça, c'est mon mode de vie. Ouais. Puis j'aime travailler sur mes affaires, sur mes projets. Mais sans avoir cette liberté-là, si je ne veux pas aller au bureau une semaine, ouais, j'y vois pas.
Mais tu te l'es offert par le travail que tu as mis pendant
absolument
des années. C'est ça aussi.
Absolument.
Il
absolument
arrive pour rien non plus.
Exact. Puis ouais, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, puis vivre de l'immobilier, puis vivre plus d'un revenu passif, parce que c'est ce que je voulais. Tu sais, moi, mon parc, beau temps, mauvais temps, les immeubles, le premier du mois, ils font toujours leur ouvrage. Là, ouais. Peu importe le temps de l'année.
Ouais.
Les dépôts vont être là, ça va se faire, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu gères, puis tout ça. Puis ça, j'ai une bonne équipe pour ça, puis j'ai mon volet que je fais. Mais quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, bien, c'est du long terme. Ouais. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Puis il faut avoir, à quelque part, une certaine vache à lait pour être capable d'investir, comme j'ai eu avec l'agence, avec mon travail de courtier. Là.
Tu disais tantôt que ton père était un travailleur, tout ça. Est-ce qu'il y avait des gens d'affaires autour de toi quand tu étais plus jeune qui t'ont peut-être donné le goût à un moment donné de le faire toi aussi? Ou,
Non, j'ai pas. Ça, c'est drôle un petit peu. Dans toute ma famille, j'ai personne qui est entrepreneur, autant du côté de mon père que du côté de ma mère.
Ouais.
Je pense que ça, tu l'entres dans toi ou tu l'as pas. Puis moi, ça a toujours fait partie de moi. Puis.
Tu le savais, tu l'as senti jeune.
Oui, je l'ai toujours su, oui. Puis moi, mes idoles, tu sais, c'est ceux qui ont bâti des grandes entreprises. C'est vraiment tout le temps à ça que ça revient.
Ouais.
C'est qui tes mentors? T'es...
Ben, j'ai pas eu vraiment de mentor. J'ai appris beaucoup à la dure, là. Okay. Autant courtier que dans mes projets immobiliers, là. Comme l'expression qu'on dit, payer pour apprendre. J'ai pas vraiment de mentor, mais je lis beaucoup sur la vie de ceux qui ont réussi. Comme exemple, je sais pas, moi... l'histoire de Nike, j'ai lu ça, l'histoire d'Apple, Richard Branson, tu sais,
qu'est-ce que tu mets en commun entre eux autres?
Bien, c'est de comprendre ce qu'ils ont fait pour en arriver là, puis c'est surtout de comprendre qu'il n'y a jamais rien de facile. Tu sais, le monde voit le résultat de quelqu'un qui a réussi. Exemple, je ne sais pas, moi, il voit quelqu'un passer avec une Ferrari, puis ah, lui, il est chanceux, tu sais. Mais c'est de voir tout ce qu'il a fait pour se rendre là. Tu sais, tous les sacrifices, puis de voir que ils ont tous un peu un point en commun. Ça a été difficile.
Ouais.
Puis c'est correct, parce que si ça serait facile, tout le monde le ferait. Tu sais.
Exact. Je pense souvent aussi beaucoup comme ça, moi aussi.
Ouais.
Souvent, les gens disent « Ah, t'es chanceux. » Non, il y a du travail là-dedans.
Il y a pas du temps. Il peut avoir une partie de chance. Il y a des timings qui fait qu'il y a des opportunités. Mais si tu apprends l'opportunité et tu fais pas ce qu'il faut... Ben, la chance, ça peut rien avoir. Il faut que tu lis, il faut que tu fasses.
Tu sais qu'ils ont tous eu des moments tough. En as-tu eu des moments tough? Parce que moi, je t'écoute depuis tantôt. Puis, première année, ça a super bien été. Ton bureau après 3 ans, tout a bien roulé. Tes moments tough à toi, quand ça s'est présenté, comment t'as accepté ça?
J'ai fait face. Puis, c'est tout le temps de pas lâcher. C'est tout le temps de voir plus les solutions que les problèmes. Parce que souvent, il y en a qui s'arrêtent trop aux problèmes. Puis je pense que ce qui fait la différence d'un entrepreneur qui va vraiment réussir, c'est sa capacité à régler les problèmes puis, à trouver des solutions. Ouais. Exemple, comme je peux parler peut-être plus par rapport à... C'est sûr que la fleur des vies, il y a eu ma séparation qui était un moment difficile.
Ouais.
Puis il y a eu la vente aussi avec Cassidy qui a duré plusieurs mois, qui était quand même... c'était éprouvant. Là. Ouais. C'était quand même du stock.
Ouais, c'est votre bébé dans le fond professionnel.
Puis on avait chacun notre équipe qui nous conseillait de fiscaliste avocat. Là, des fois, tu te fais crinquer d'un bord. Puis là, mais attends, là, si tu dis ça, il y a peut-être...
Oui, puis une agence immobilière, on va se le dire, là, c'est pas vendre un restaurant ou...
Non,
c'est complexe.
Là. C'est très complexe.
Ouais.
Là,
absolument.
Mais tu vois, Ben, que on a reçu David avant toi. Puis tu dis, les entrepreneurs, on les reconnaît dans leurs défis, puis...
Oui.
Puis c'est exactement, tu sais, c'est toute là la ressemblance là, de quelqu'un qui... vraiment...
Oui, parce que moi, je pense que quand tu t'offres, disons que tu es dans un domaine comme exemple l'immobilier, bien, quand tu lâches pas, bien, il y a toujours... après la pluie, c'est le beau temps. Tu sais, il y a toujours une conclusion quand tu fais ce qu'il faut qui va être positive quand tu lâches pas. Tu sais, c'est une telle question de pas lâcher... Puis c'est surprenant quand tu vois des entrepreneurs qui ont bâti des grandes entreprises puis qui ont fait des grandes choses, de voir comment ils ont pu rusher.
Ouais.
Puis de voir qu'ils étaient juste sur le bord de tout perdre. Tu regardes ça, tu dis, crime, il n'y a pas de secret.
Ou qui ont tout perdu aussi des fois, puis qui reviennent, puis qui
ont
quelque chose.
Tout repris.
Ils ont tout repris aussi. Ouais.
Ça arrive, effectivement. Ouais. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit, surtout en immobilier. C'est vrai qu'en immobilier, tu sais, puis je fais la même chose que toi, là, comme investisseur, mais faut pas enlever le crédit. Mais je veux dire, on va se dire les vraies choses. L'immobilier, à moyen long terme, en principe, tu ne peux pas perdre si tu fais bien les choses.
Exact. C'est très dur à battre. C'est sûr que si, exemple, tu achètes n'importe comment ou tu fais construire à n'importe quel prix, ça ne marchera pas.
Ouais.
Moi, c'est sûr que je vais toujours faire un profit à l'achat, exemple. C'est comme j'ai acheté un 104 portes l'année passée, un parc immobilier, là, un 9 immeubles. Puis si quand je vois que je ne peux pas faire un profit à l'achat, je n'achète pas parce que, justement, si le contexte économique change,
ouais.
Ben oui, tu prévoyais faire de l'argent avec, exemple, ton parc dans X nombre de temps, mais si les taux d'intérêt, exemple, ne sont pas favorables,
ouais.
Ben là, ce que tu pensais gagner, tu ne l'as plus. Mais si tu fais un profit à l'achat, puis que tu as payé moins cher que ce que ça vaut, ben tu l'as ton jeu, tu
ouais.
l'as ton coussin.
Oui, oui, oui.
Puis le parc que je parle, on prévoyait l'optimiser en 3-4 ans, on l'a fait en un an.
C'est encore mieux.
Bravo.
Ben oui, puis ça a été super bon. Tu sais, le parc a pris énormément de valeur depuis que je l'ai acquis. Fait que c'est sûr que l'immobilier, c'est toujours bon, mais il faut faire les bons moves. Ouais. Parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui fait les mauvais moves peut vraiment se planter.
Les mathématiques sont plus bonnes.
Exact.
C'est plus bon.
Puis ça, c'est bon ce que tu viens de dire. Les mathématiques sont plus bonnes. L'immobilier, l'immeuble à revenu, c'est une question de chiffres.
Mm-hmm.
Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'être plus à froid, puis de voir que les chiffres fonctionnent, puis de dire, bon, ben mes taxes vont monter, les taux d'intérêt vont peut-être monter ce qu'on vient de vivre, qu'on n'a pas vécu.
De le faire, tu sais.
C'est ça.
Exact.
Exact. Puis ça prend tout le temps aussi un. Ce que là, ça m'a fait apprendre la situation des taux d'intérêt, c'est qu'il faut toujours se prévoir un backup. Tu sais, avant que les taux montent, moi, j'avais la pédale au fond. Là. Je faisais des projets, des acquisitions au travers.
Ouais.
Là, les taux ont monté. Puis ce que je prévoyais faire, exemple, de refinancer tel immeuble, parce que moi, dans ma tête, c'était prévu pour toutes les prochaines années,
bien,
c'était plus possible. Là.
Non, puis la réglementation sur quelques points a changé aussi.
Sur le financement.
Oui.
Ben c'est ça. Puis maintenant, il faut
le
passer.
CHL, au niveau
APH,
du refinancement.
Ça a tout changé ton plan de match.
Ben, il a fallu que je me. Ouais. Comment je pourrais dire? Il a fallu que je sois créatif. Parce que si on revient à la question que tu me posais par rapport à une difficulté, je pense que c'est ce que tu me demandais.
Les bouts les plus difficiles maintenant.
Les bouts plus difficiles. Ouais. Bon, comme je disais, il y avait eu la vente avec la Fleur des Vies, mais pour Ascensio. Le bout le plus difficile.
Ascensio, pour les gens qui ne le savent pas, c'est ton entreprise.
Mon parc immobilier.
Ton parc immobilier.
Exact, exact. Un bout difficile que j'ai passé, c'est quand les taux ont monté. Comme je disais, j'avais plein de projets en branle. Cette année-là, j'ai fait construire, j'ai acheté à peu près l'année avant là, que les taux montent, à peu près, je ne sais pas moi, je pense que j'étais à 136 portes. Puis quand les taux ont monté, bien là, mon plan de refinancer lui, parce que tu joues un petit peu au Monopoly, ça ne marchait plus.
Ouais.
Mais là, j'ai un projet qui est parti là, j'en ai un qui roule à Québec, puis là, ben ça prend tant de mise de fonds pour lui, puis ça prend tant pour lui, puis, puis les taux d'intérêt aussi ont impacté ma rentabilité.
Ouais.
J'ai exemple, j'avais un 32 logements, j'ai un 32 logements avec l'hypothèque, j'avais figuré que c'était à peu près 250 000 par année. Quand les taux ont monté, j'ai monté à 400 000.
Ouch.
T'sais, je veux dire, ça te défend de rentabilité, puis j'avais 6 immeubles qui avaient été impactés comme ça. Puis quand tu n'as jamais vécu une situation comme ça, ben t'as pas encore la notion d'à quel point ça va impacter un paiement.
Exact.
Tu dis quand même, ça monte à 5-6.
Ouais.
Ah, ben ça va monter un peu, mais tu penses jamais que ton paiement va doubler.
Hey, c'est de l'argent à tabarnouche. Hein?
Exact. Puis ça, tu sais, on n'a pas vu ça depuis les 30 dernières années, des hausses comme ça.
Ben, merci de partager les coups durs, parce que c'est ça la réalité. Puis tu es en train de le dire. Mais... Il y a les bons coups de circuit aussi, parce que dans l'investissement, tu as certains plans d'affaires. Il y a des gens comme toi qui vont avoir une stratégie au niveau des terrains, puis construire. Tu as des gens qui vont avoir des stratégies sur on prend un immeuble, on rénove, on rehausse la valeur. Dans ton plan d'affaires, tu sais, moi, je trouve intéressant, si tu es d'accord, du coup de circuit que tu as fait par rapport au terrain, que tu as divisé et tout ça, là, je veux pas...
Ben, ça, je n'ai fait quelques-uns. C'est sûr que le terrain, c'est toujours bon, encore là, quand on achète bien. Tu sais, je peux peut-être dire les trois dernières années, les trois bons coups que j'ai fait par rapport au terrain.
Pas plate. Trois bons coups, c'est bon, en revanche, j'aime
non,
ça.
Non, c'est
trois
ça.
Trois bons coups en trois ans.
Ben là, Colin, ben, ah ouais.
Je peux pas dire que je fais ça tout le temps, à chaque année. Mais
non, mais
si
là,
je...
c'est une bonne lancée.
Si je parle, parce que moi, mon but, c'était vraiment en plus de me lever des portes, de m'acheter des portes pour avoir un revenu passif.
Ouais.
puis faire la vie que je veux, puis avoir vraiment la liberté financière. Tu sais, c'est ça l'objectif. Mais mes trois derniers terrains, j'en ai un dans le nord de Sherbrooke que j'ai mis la main dessus, que j'ai acheté. Là. Ça, c'est vraiment un bon coin. C'est pas loin du carrefour de l'Estrie. Exemple, j'ai payé 300 000. Celui-là, je l'ai fait évaluer. L'évaluation est sortie à 1 052 000 deux mois après. Tu sais, c'est quand même... Tu vas chercher une bonne équité déjà là pour un projet.
Ouais.
Un autre que j'ai fait en 2022, le 32 logements que je vous parlais tantôt, j'ai payé 920 000. J'ai vendu la moitié, 735 000 pour la moitié du terrain. Fait que ça me fait un terrain qui me revient vraiment pas cher.
Ouais.
Puis lui que je vais notarier peut-être dans trois semaines, un mois, j'ai acheté un terrain qui avait une église dessus, quand même un grand terrain, 100 000 pieds carrés.
Ouais.
J'ai fait changer de zonage avec la ville pour faire du multilogement, pour faire 248 logements. Là. J'ai présenté mon projet, tout ça, 96 logements.
Ouais.
Puis là, je vends la moitié du terrain, j'ai payé 1,6 million, puis je vends la moitié 1,6.
Fait que, tu sais, c'est plate, du... ça non plus. Là. C'est un bon coup, ça.
C'est
ça,
du 100% de profit. Puis ça, me
ça si je fais des mathématiques,
oh, mon
là,
Dieu, je suis pas fort en maths, mais j'ai
jour et
ça,
nuit,
bon,
puis que je calcule ça, c'est une bonne affaire,
c'est une très
ça.
Bonne affaire.
Ça me fait un terrain, là, je me garde un des deux terrains. Ça me fait un terrain pour lever un 48 logements qui va m'avoir coûté absolument rien.
Ou
quelques dépenses là,
ouais,
que je n'ai pas mis dans l'équation. Mais
quand même.
Ouais, c'est le terrain, là, c'est toujours bon. Je ne me spécialise pas nécessairement là-dedans. Je pense peut-être, vu que j'ai beaucoup plus de temps, me focusser un peu plus là-dessus. Mais mon objectif, c'est vraiment de grossir mon parc pour le revenu passif.
Qu'est-ce qu'ils disent tes parents quand ils te regardent?
Ah, ben ils sont fiers. Ils sont fiers.
Quand ils regardent tes projets?
Ah, ils sont fiers, ils sont contents. Hein, puis,
Tu sais, parce que des fois, les parents qui n'ont pas ça dans l'ADN, le risque, l'entrepreneuriat, ils vont être en ado puis ils vont avoir le vertige.
Ils
peut-être qu'au début,
aussi.
Ils vont dire « Francis, voyons donc! »
Oui, mais mes parents m'ont jamais dit ça parce que je pense qu'ils savent que je le sais ce que je fais.
Ouais.
Je ne rentre pas dans un projet où je fais pas quelque chose. Je suis quelqu'un d'assez analytique, tu sais, qui va regarder gros les chiffres. Je vais regarder mon affaire. Je vais être capable de changer d'idée, tu sais, je vais... Ils savent que je me lance pas d'un projet à tête baissée.
Ils doivent se promener en voiture à Sherbrooke et dire « ça, c'est à mon gars, ça, c'est à mon gars, ça,
c'est
à mon
sûr.
Gars. »
Ben, avant, dans mon coin, on me voyait un peu partout, mais là, on ne me voit plus, on voit juste Cassidy, puis ça me dérange pas. C'est bien correct comme ça.
Ils doivent être bien fiers de ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui te drive encore? Parce que, tu sais, t'es un gars de projet, on le sent bien. Qu'est-ce qui te drive encore le matin quand tu te lèves, parce que tu as réussi à faire plein de choses que tu voulais faire. Tu l'as dit tantôt, quand tu as commencé comme courtier, il y avait des objectifs de vente. Quand tu étais à l'usine, il y avait des objectifs que tu dépassais. Qu'est-ce qui te drive encore aujourd'hui?
Je dirais sortir de ma zone de confort. Tu sais, comme aujourd'hui, l'invitation que vous m'avez faite, je n'avais jamais fait ça. Fait que tout de suite, ça a été, ben oui, pourquoi pas.
C'est pas super, finalement, ça se passe bien?
Oui, ça va super bien. C'est correct.
On est super contents.
C'est
parfait, ça passe. Puis je dirais... Un défi que je me suis donné, j'étais en train de faire ma licence de pilote d'hélicoptère.
Wow.
Puis c'est pas pour péter de la boue avec ça ou quoi que ce soit, c'est que moi j'avais vraiment une phobie. C'était maladif mon affaire, là, justement. Là. Ça m'empêchait de faire plein de choses. J'avais vraiment un vertige qui virait en phobie. Exemple, j'allais dans un immeuble de plus de 10 étages, je filais pas bien puis je chantais que j'allais écraser.
Ouais.
Puis je suis déjà allé à Tour Eiffel avec mon ex-femme, justement, qu'elle se dit, elle s'en souvient parfaitement. On voulait aller souper en haut, puis aussitôt que j'ai commencé à monter, j'ai reviré de bord parce que c'était une phobie.
On va aller souper ailleurs ce soir.
Comme quelqu'un qui a peur des araignées, exemple. Ouais. C'est pas réel, tu t'inventes des affaires. Je prenais l'avion, il fallait que je prenne des pilules pour me calmer, puis là, j'arrivais où ce qu'on allait, puis j'étais gazé. J'allais quasiment me coucher, c'était pas le fun.
Ouais.
Fait que je me suis dit, je vais aller faire mon cours d'hélicoptère, parce que je trouvais ça sharp, l'hélicoptère.
Ouais.
Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé...
Un gros défi, là.
Belle bébelle, puis une belle liberté.
Ouais.
Puis pour battre ça, puis les deux premiers mois, ça a été super difficile, parce que ça s'emparait de moi. Puis ça me faisait un... Tu sais, quand t'as une phobie, tu paniques.
Ouais.
Tu sais, puis c'est pas réel ce que tu dis, puis tu t'imagines tous les pires scénarios. Puis les deux, trois premiers mois, l'instructeur, il me demandait de faire des appels à la radio, puis tout ça. Puis des fois, je disais, écoute... Je n'avais parlé, tu sais, je disais, écoute, là, laisse-moi me gérer un petit peu.
Attends une minute, mais là, t'es dans un hélicoptère?
Là, j'étais dans un hélicoptère, je pilotais avec un instructeur. Là,
OK, mais t'es déjà rendu à piloter... Puis t'as le vertige.
Ouais.
Encore.
Ouais, bien, j'ai commencé à le faire en ayant encore ma phobie.
OK.
Puis ça a dû me prendre un 2-3 mois avant d'être capable de la contrôler. Ouais. Puis ce que ça m'a fait comprendre, c'est que tout ce qu'on a peur dans la vie, il y a vraiment moyen de le vaincre puis de prendre le dessus, tu sais, au lieu que ça te contrôle, en te mettant les deux pieds dedans. Puis c'est ça que j'ai fait en allant faire mon cours. Ouais. Je me suis mis les deux pieds
dedans. Tu l'as affronté.
Exactement. Puis quand je me souviens la première fois que je suis décollé avec ça tout seul dans le ciel, là, je vous le dis, là, puis j'étais pas si près que ça parce que l'école où je faisais ça, il fermait. Puis il voulait que je finisse ma licence avant, avant qu'il ferme. Fait que disons que ça allait vite peu. Puis surtout que je partais de loin parce que c'est quelque chose que j'avais peur des hauteurs. Quand je suis décollé avec ça la première fois, je vous le dis, là, j'étais tout seul dans l'hélicoptère, il faisait chaud. Il a enlevé une porte parce qu'il faisait chaud comme un Jeep, les hélicoptères.
Les mains étaient moites.
Les mains étaient moites. Il m'a enlevé une porte. Puis là, vu qu'il n'y avait pas de poids à côté de moi, parce que normalement, c'est l'instructeur, il a mis une canisse de gaz. Il dit, tiens, c'est pour le poids. Puis tu sais, c'est des choses qui se font, ça a l'air. Puis quand j'ai décollé avec ça, là, les mêmes shakaient. J'avais les pieds sur les pédales parce que t'as trois commandes. Les mêmes shakaient, les pieds me shakaient. Puis le premier coup que je suis venu pour décoller, puis je savais que je risquais d'avoir un blocage, tu sais, de partir avec ça tout seul dans le ciel. Ben, s'il arrive de quoi, c'est fini. Puis j'ai eu mon blocage, j'ai fait marche arrière. Puis, ben, pas marche arrière, mais j'ai arrêté de prendre mon élan pour monter. J'ai réduit la puissance. Puis là, j'ai passé à des places où ce qu'il fallait pas. Puis là, l'instructeur était là, puis il me regardait. Puis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, tu peux pas passer là. Puis je revenais. Puis là, j'ai dit, écoute, excuse-moi.
T'es revenu.
Je suis revenu où j'avais décollé. J'avais passé à des places qu'il fallait pas, puis j'avais pas voulu décoller. J'ai dit à l'instructeur, je dis, écoute, je savais que ça risquait de m'arriver avec mon vertice, puis tout ça, j'ai eu un blocage. Il dit, garde, là, il dit, prends le temps, là, puis tu verras si tu veux y retourner. Fait que j'ai attendu une demi-heure, 45 minutes, je me suis parlé, puis je voulais pas être déçu de moi, de pas avoir pu le faire. Mm-hmm. Puis après une demi-heure, à peu près, je suis reparti avec ça, j'ai fait mon décollage, puis là, je suis allé, puis ça a super bien été. Puis j'ai fait, on appelle ça des circuits, là. Je n'ai fait 4 autour de l'aéroport, là, j'étais tout seul dans l'hélicoptère, puis...
Quand tu t'es couché le soir, là?
Ben, quand j'ai atterri...
On va aller moins loin que ça, JS.
Quand
j'ai atterri, puis pourquoi je voulais le faire, c'est que je me disais que si... Tu sais, tantôt, on parlait que j'avais réussi à me contrôler dans ma séparation pour que ça allait bien. Je me suis dit, si je fais face à ce qui me fait le plus peur dans la vie, ben maintenant, je vais être capable de faire tout ce que je veux dans la vie, parce que c'est ça qui me faisait le plus peur. C'est pour ça que je voulais absolument le faire. Puis quand j'ai réussi à le faire... Puis j'étais avec une amie qui était venue avec moi
ce jour-là.
Pour ce vol-là. Puis c'était ma blonde à ce moment-là. Puis j'avais dit, si j'ai réussi à faire ça maintenant, je vais faire tout ce que je veux faire. Puis je me le disais, c'est pour ça que je voulais pas le faire.
La motivation, c'était ça, là.
Ouais, puis c'est pour ça que je voulais pas réussir à le faire. Puis à un moment donné, me créer un doute.
Ouais.
Que...
Merci de nous l'avoir compté.
Ben oui.
C'est vraiment, vraiment...
Donc, de passer ta licence, puis là, maintenant, tu t'amuses de temps en temps, puis tu vois.
En fait, j'ai arrêté quelques mois, là, le temps que je vendais l'entreprise, la Fleur des Vies, parce que j'avais trop la tête occupée. Puis tu vas pas voler avec ça quand t'es pas toute là, puis que t'as trop de choses dans la tête.
Il faut que tu sois raisonnable, puis il faut qu'à un moment donné, j'imagine que ton orgueil prenne pas le dessus non plus, parce qu'il y a des choses qui sont importantes, la température.
Absolument. Là, j'ai recommencé là, depuis que j'ai réglé ma vente. Là, je fais mon examen théorique, d'après moi, dans une semaine ou deux. Puis après ça, il me reste juste mon pratique à finir. Ça, je suis peut-être à...
D'ailleurs, Francis est venu en hélicoptère ici, atterri sur...
Lui qui atterrit sur le toit.
C'est lui.
C'est lui, ça.
Pas encore.
Bientôt.
Puis il me reste à peu près... je suis à peu près à 75% du pratique, là.
OK.
Dans ces eaux-là.
En affaires, c'est comme... Puis on le dit, Ben, puis t'es un sportif, c'est comme le sport. Puis j'ai un ami, Régent, sa fille est professionnelle cycliste. J'ai envie de vous le compter.
Vas-y.
Elle est professionnelle cycliste, Joanie Rochette. Performante. Elle a gagné, si je ne me trompe pas, la Coupe du monde en gravel, je pense.
Okay.
Mais il y a eu un article dans la presse, puis elle expliquait le mental dans le sport. Un moment donné, dans une compétition, elle s'est amenée tellement à un niveau qu'elle n'était jamais allée qu'elle s'est évanouie.
Ah ouais.
Ils sont venus chercher, bon, l'ambulance, elle est à l'hôpital. Mais quand elle est revenue, elle a compris que sa limite n'était pas ici, là.
Ouais.
Elle a compris que sa limite était là. Fait que le gap qui était là, c'est qu'elle n'avait pas connu, là, ça, maintenant, elle l'avait.
Elle s'en sert.
Ben, tu sais, c'est toujours de sortir de sa zone de confort. Peu importe ce qu'on fait, c'est là qu'on évolue, on grandit, on apprend, puis On se connaît plus soi-même.
Tu l'as dit tantôt, quand c'est, si c'était facile, tout le monde le ferait.
Absolument.
C'est bon pour nous aussi, tu sais.
Vraiment.
C'est possible de goûter à des choses qui, normalement, nous amèneraient un vertige ou peu importe, de prendre, faire les efforts, prendre le temps, puis de se lancer.
Ben moi, je pense que ce qui nous fait peur, c'est d'aller de l'avant, puis de le faire, puis d'y faire face, parce qu'après, t'es comme un peu changé. Tu sais, tu te rends compte que, ah, crème, j'ai pris le dessus là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est pas ça qui a pris le dessus sur moi. Puis moi, ça faisait une couple d'années que ça durait, fait que je voulais le régler, puis là, c'est parfaitement réglé. Là, maintenant, là, quand je me loue une chambre d'hôtel, là, je demande le plus haut possible.
Pour vrai?
Je m'en vais sur le balcon, je me mets la face en bas, je regarde.
Tu y fais face,
c'est parfait. Là. Quand je suis en avion aussi, je demande à être sur le côté pour voir dehors.
Ah, avant, c'est chose que tu faisais pas.
Avant, c'était le hublot fermé. Ah, oui, j'essayais quasiment de respirer pour me calmer.
Là, tu vas juste construire des tours de 10 étages et plus.
Ah, j'aimerais ça.
Puis là, ce qu'on va apprendre la semaine prochaine, c'est qu'il va faire tous les podcasts du Québec.
Exact.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi pas, Colin?
Alors, c'est cool. Un investisseur, parce que l'immobilier, la beauté aussi de ça, c'est que tout le monde a accès à ça.
Ouais.
Beaucoup de gens doivent venir voir Francis et dire « Francis, qu'est-ce que je devrais faire comme nouveau investisseur, un investisseur qui commence? » C'est quoi le « in » que tu y donnes?
Ouais, c'est sûr qu'un investisseur qui commence, premièrement, il faut qu'il y ait une vision, à moins qu'ils veulent faire des flips, mais je pense pas qu'on parle de ça. Faut qu'il y ait une vision moyen-long terme. Peut-être même plus long terme. Parce que moi, les moves que j'ai faits, c'était des moves pour dans 25 ans, exemple, là, quand j'ai commencé. Puis
c'était ça.
Là, je vis de ça, puis c'est bon. Mais je dirais que c'est de commencer, c'est de ne pas vouloir partir trop en peur. Commencer avec un immeuble qui est une grosseur correcte pour l'investisseur qui est à l'aise, exemple, un 4 logements. Moi, j'ai commencé avec ça.
Pour apprendre.
Parce que sinon, je dirais, le plus gros, c'est le mieux. C'est des chiffres, c'est des maths.
J'ai commencé avec un triplex.
C'est ça.
On a changé des sonneries aux locataires, puis des toilettes.
Exact. Puis je dirais, faut que l'investisseur qui commence, comme j'ai tantôt, qui ait quand même un bon revenu déjà, une bonne vache à lait, pour être capable d'investir, parce qu'on ne se le cachera pas, ça prend de l'argent pour investir.
Ouais.
Moi, ça, c'est une chose que j'adore de ma situation, c'est que j'ai aucun investisseur. T'sais. Mon parc immobilier, je le détiens à 100%. Je suis seul
à toi.
Oui, j'en ai deux immeubles en copropriété, mais je veux dire, l'entreprise Ascensio, je suis propriétaire à 100%.
Oui.
Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça dépend de la structure qu'on veut. Je pourrais avoir 4 fois plus de portes, mais j'aurais 4 fois plus d'investisseurs.
Oui.
Tandis que là,
peut-être 4 fois plus de problèmes aussi.
Et 4 fois moins de temps.
Et 4 fois moins
de temps. À gérer, à rendre des comptes. Moi, ce que je veux, c'est me lever le matin, puis de faire ce que je veux, puis de prendre les décisions que je veux. Fait que ça dépend. Il y en a qui vont plus vite en ayant plein d'investisseurs. Moi, je dirais, plus la mentalité, petit train va loin.
Ouais.
Commencer avec une grandeur.
Petit train.
Ça va bien. Hein? Un beau train.
Ça va bien. Petit train.
Train grand.
C'est bon de le voir comme ça.
C'est ça. Exactement.
Ouais.
C'est sûr qu'il y en a qui réussissent bien en faisant des flips. C'est pour se monter un capital un petit peu plus vite, pour aller un petit peu plus gros puis investir. Mais puis de voir aussi comment que la personne aime ça. Il y en a qui ont eu des immeubles à revenus qui ont tout vendu ça.
Ouais.
T'sais, moi, j'ai vraiment monté une bonne structure. J'ai un directeur qui s'occupe de mes immeubles, qui est mon ami d'enfance, là, qui s'appelle André Awad. Justement, il a dit « Hey, tu vas-tu me nommer?
Bon, » C'est fait.
qui? André?
André Awad.
Bon.
Écoute, c'est un chum d'enfance. Ouais. Je le connais depuis que j'ai 12 ans.
Mais là, il doit un souper, là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Pas son genre. C'est pas un gars qui flash. Mais je mettrais ma vie entre ses mains et il ferait pareil.
Okay.
Quand la confiance est là comme ça, c'est d'avoir du bon monde comme ça.
Et avec un parc important comme le tien, c'est important d'avoir ça aussi.
Oui, puis moi, je peux me concentrer où je veux me concentrer parce que moi, je me concentre plus dans le développement.
Ouais.
Je me concentre dans les acquisitions, les terrains, les changements de zonage, les constructions, les projets, développer ça avec les architectes, les ingénieurs. Je n'ai pas à me casser la tête, comme on dit, pour le day-to-day.
Ouais.
J'ai vraiment... On a un comptable à temps plein au bureau, on a un homme de maintenance à temps plein. On a une adjointe, on a du monde externe aussi, là, qui sont plus des sous-traitants. Mais je peux vraiment me concentrer où ce que c'est bon que je sois.
Ouais.
Puis c'est ça qu'il faut faire, travailler avec les forces de chacun. Quand on est trop pareil dans une entreprise, on veut trop aller à la même place, on s'enfarge. Puis
non, faut que tu sois complémentaire.
On prend les mêmes décisions, mais on fait les mêmes erreurs.
Exact. Ouais. Fait que, c'est important d'être différent puis complémentaire.
Ouais. Ben, je vais te conter une anecdote justement sur, je pense, André.
Okay.
Mon partenaire Paul, que tu connais, qui est mon avocat avec qui on a toujours investi.
On l'aime, Paul.
Sa fille va à l'université à Sherbrooke. puis il est allé avec sa fille louer un appartement dans les appartements de Francis.
Ah ouais?
Ouais.
Il y a okay. Là, là.
Ouais, ouais. Puis je pense,
on est petit, hein?
Je pense qu'André était là. Puis là, en fait, il y a plein d'affaires qui s'est passé. Paul m'a appelé, il dit, OK, là, tu connais-tu Francis Lafleur? Il dit, son concept est bon, en maudit partner. Là. Il dit, là, il va falloir regarder ça. Parce qu'André, il a expliqué un peu, dire, écoute, on construit ça. Fait que Paul a tout vu ça. Fait que,
en bon entrepreneur, il a su reconnaître.
Ouais, ouais, là, il a dit, OK.
Il a dû voir aussi que nos immeubles sont brandés.
Oui. Il a tout vu ça,
ouais,
Paul.
C'est ça. Ouais. Moi, le brand...
Quand tu dis qu'ils sont brandés...
Ben, tous nos immeubles ont leur logo.
Ouais.
C'est brandé, puis c'est une signature. Ouais. Ouais.
T'es ça met en confiance les gens aussi.
Oui, puis tu es un peu garant de ça. Il y a beaucoup de monde en immobilier qui ne font pas ça, puis c'est un peu ta signature. Puis tu veux que ça soit sharp parce que ça te représente.
Dans les entreprises, même aujourd'hui, les médecins doivent être brandé. Ouais. Parce que c'est des. Tu sais, on va dire les vraies affaires, là, les cliniques privées, tout ça.
Il y en a plein, là.
Les brands, c'est ouais. essentiel aujourd'hui.
C'est important. Puis ça inspire une confiance. Puis tu sais comment. Comme exemple, Starbucks. Ben, tu vas chez un Starbucks au Mexique, ben, tu sais que c'est Starbucks.
Ouais.
C'est un concept.
Il y a un concept.
Il y a une façon de faire en arrière de ça. Ouais. Tu sais à quoi t'attendre. Fait que c'est important.
Es-tu fier de toi?
Oui, oui, quand même. Quand même. Mais on dirait que on veut tout le temps faire plus.
Ouais.
Mais c'est vraiment important d'apprécier ce qu'on a.
Exact.
T'sais, souvent, je m'arrête pour apprécier ce que j'ai puis réaliser la vie que je fais, parce que je fais vraiment une belle vie puis je suis bien dans ma vie. Il faut apprécier ce qu'on a pour justement être capable d'avoir plus, mais il ne faut pas toujours courir après ça. Des fois, juste s'arrêter puis dire « crime, je suis vraiment bien, c'est le fun. »
Le savourer, l'apprécier.
Puis tout le plus, ben, c'est du gravy. Puis quand tu n'as pas de pression... de personne et non pas de toi-même, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous en,
la plupart
qui vont nous en mettre le plus. Ouais. Quand tu n'as pas de pression, tu peux faire des choses que tu aimes. Comme là, je suis en train de développer un petit projet sur quelque chose que j'aime, là, que, lié à l'automobile, là, comme on a parlé, que je vais voir où ça me mène. Et je l'ai fait parce que j'aime ça.
Ouais.
Je ne l'ai fait pas par obligation ou par pression.
T'as envie de le faire, de découvrir.
Ouais. Puis si ça ne marche pas, ben, je vais essayer autre chose. Puis à un moment donné, je vais faire un coup de circuit sur autre chose. Puis... Mais je reviens toujours à l'immobilier, par exemple, parce que c'est...
C'est tes premiers amours, puis tu vas finir avec ça.
C'est très dur à battre. Le concept de ça, là, est vraiment dur à battre. Puis je vais juste donner un exemple. Quand, exemple, on refinance un immeuble, tu sais, JS, t'en as, puis tu sais, toi, Benoît, tu regardes pour ça.
Ouais.
Quand on finance un immeuble, je viens de faire un financement de 6 immeubles quand les taux d'intérêt ont monté. Puis j'ai passé par le programme OPA, justement, pour bien financer ça, puis avoir un meilleur taux, puis la durée du prêt, puis tout ça. J'ai baissé mes paiements de mes 6 immeubles de quand même un bon montant, là, à peu près 200 000 sur mes paiements annuels.
Sur l'ensemble,
j'ai sorti un 3 millions de ces refinancements-là. Puis je vous dis, vous allez me dire, ouais, mais c'est financé, ouais, mais c'est le locataire qui paye. J'ai baissé mes paiements, puis j'ai pas d'impôt là-dessus.
Ouais.
Puis je peux le réinvestir, puis faire d'autres projets, puis faire d'autres choses avec ça. C'est un beau... Trouvez-moi un meilleur modèle que ça. Tu sais, comme là, vu que les taux ont monté, j'ai mis ça un petit peu sur le break parce que c'est moins intéressant pour les rendements, puis ça. Puis là, je vais plus placer un peu à la bourse puis un peu des placements plus sécures.
Ouais.
Mais par rapport à l'immobilier, c'est dur de trouver une meilleure formule.
Absolument.
Ouais.
C'est très dur.
C'est très dur.
T'sais, tu l'as dit, il y a moyen de faire aussi de l'immobilier dépendamment de son plan d'affaires à court terme, à moyen terme, à long terme.
Absolument,
tu peux trouver chaussures à ton pied. Il y a une accessibilité intéressante. Il y a des professionnels pour ceux qui commencent à bien s'entourer.
Ouais.
Il y a
beaucoup de choses qui tournent autour de ça.
Oui, beaucoup. Mais... C'est le fun de recevoir quelqu'un qui l'a fait. Alors,
une histoire inspirante.
Qui s'en nourrit puis qui a bien réussi. Moi, la réussite, bravo, Francis.
Merci, c'est beaucoup de gens qui se disent et qui ont envie de le faire. Mais de voir quelqu'un qui a réussi, qui le fait bien, et tu m'as beaucoup eu aussi avec ton côté « j'aime ma vie ». Tu as profité de ça, tu as travaillé fort pour te donner ce que tu avais envie de faire. Le temps est très important pour toi, puis tu as pris le temps de te l'offrir. Puis ça, je trouve ça beau, ça.
Puis c'est important parce que beaucoup de gens subissent leur vie.
Ouais.
Puis ils pourraient changer ça en faisant vraiment les changements qui sont bons pour eux. Puis la vraie réussite, comme je disais tantôt, ben, pour moi, la vraie richesse, c'est le temps, mais la vraie réussite, c'est aussi une question d'équilibre.
Ouais.
Tu sais, moi, quelqu'un là, qui fait quatre fois plus d'argent que moi, là, mais qui n'est pas maître de son temps comme moi, moi, je suis pleinement maître de mon temps. Ben, dans mon livre à moi, il est moins riche que moi. Ça, c'est un volet vraiment important. Puis il y a beaucoup de questions d'équilibre. On peut travailler pour faire de l'argent dans le plus finir, mais si ta vie, c'est juste ça, puis que tu passes à côté de tout, tout mon temps que j'ai été courtier, moi, j'ai mis quand même beaucoup de choses de côté. Comme exemple, mon fils, j'aurais voulu passer plus de temps avec lui.
Ouais.
C'est sûr que si ça serait à refaire, ben oui, je voudrais refaire ce que j'ai fait pour avoir la vie que j'ai, ouais. Mais ça serait plus juste tout le focus de ma vie. Ouais,
parce que ce temps-là revient pas.
Mais je pense que t'en profites avec ton gars, là.
Si je vraiment, je me suis vraiment rapproché de lui, puis c'est le fun, puis il y a 20 ans, puis on est comme devenu un peu deux chums.
Ouais.
Fait que c'est vraiment le fun, mais...
C'est sûr c'est le fun. C'est sûr c'est le fun de conduire la Ferrari à papa de temps en temps. Ah! Ça ramène le gars à maison un peu.
Complètement.
Ouais. Il l'a essayé dernièrement, puis il s'est un triple d'auto aussi, ouais. Mon gars. Puis peut-être que plus tard, on va faire un petit projet. C'est ensemble,
le projet en voiture, là, tu pourrais l'embarquer avec toi là-dedans. Ouais. Là.
Ben, j'y pense.
Là, bonne relève.
Je laisse.
Tu y fais-tu un peu la vie dure pour qu'il... Ou tu lui donnes le tapis rouge? Puis...
Honnêtement, je veux... C'est important d'avoir de connaître bien la valeur des choses.
Ouais.
Je voudrais pas y donner ça trop facile à mon gars. Puis non, je le fais pas. Je vais l'aider,
ouais.
Mais y donner ça sur un plateau, je le ferai pas. Puis tu en vois des parents qui sont en moyen puis qui donnent tellement ça sur un plateau à leur enfant, ouais. Que c'est pas les aider.
Ouais.
Non.
Parce que quand c'est le temps de faire face à la vie, faire face aux problèmes...
C'est pas la réalité. Hein? Ouais, c'est ça, ils n'ont pas de repères.
Exact. Ils n'ont pas de repères. Le chemin se fait pas.
Exact.
Fait que je pense que c'est pas aider quelqu'un de mettre ça trop facile.
100%.
Au contraire. Fait que non, c'est pas mon genre. Puis ça t'apprend aussi l'importance de travailler, puis la valeur de l'argent. Puis
belle éducation. Bravo.
Ouais.
Merci.
Il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce podcast-là.
Ah ouais?
Là, tu vas recevoir plein d'appels,
okay.
Plein d'invitations, parce que tout ce que tu nous as conté, c'est inspirant, c'est le fun.
Ah ben, je suis content de l'entendre.
Si tu as bâti un modèle qui te va bien, mais tu as bâti aussi un modèle qui a fait ses preuves, et les gens vont être curieux d'en savoir davantage à ce niveau-là, c'est sûr et certain.
Ouais, ça va bien, puis on va continuer de... Là, c'est sûr qu'on est ralenti un peu par les taux d'intérêt, puis je me sens entêté beaucoup à vouloir continuer, parce que tout le monde me disait d'arrêter, exemple mon banquier ou d'autres personnes dans le projet. Je m'entêtais, mais à un moment donné, je me suis assis, j'ai regardé les chiffres. Je portais un projet cet été que j'ai retardé, puis je me suis dit, bah, ça devient moins intéressant. Tant qu'à ça,
peut attendre.
Oui, puis tant qu'à ça, je vais placer. Ça va être plus gagnant comme ça le temps que ça se place.
Exact.
Fait que ton entêtement s'est assagi, puis la sagesse a pris le dessus.
Ouais.
Ben, avant la hausse des taux, une leçon que j'ai eue, tantôt on parlait de ça, c'est que j'avais toujours la pédale au fond.
Ouais.
Toujours, un projet après l'autre, puis let's go, on part ça. Puis des fois, je m'embarquais dans des projets comme la Place Bergamin. Les vendeurs m'ont dit, nous, on veut tout vendre d'un coup. Tu sais, c'est un 104 portes, là. Faites le calcul vite, là.
Ouais.
Tu sais, c'est un 20 millions là, pour acheter ça. Puis j'ai pas hésité, j'ai dit, parfait, je vais vous l'acheter d'un coup.
Ouais.
Puis tu sais, je m'étais donné un petit peu de temps dans mon offre. Je m'étais donné jusqu'en 2025, puis je l'ai fait en un an.
Ouais.
Mais je savais pas comment j'allais le faire. Je m'étais déjà embarqué là-dedans, puis je savais pas comment j'allais le faire. Fait que des fois, il faut juste un peu se mettre le pied dans la porte. Puis après, tu trouves les solutions,
ouais, c'est
la façon de le faire.
Ça, tu sais qu'il y a différentes mentalités, mais moi, je suis de même.
Ben, je te confirme.
C'est parce que des fois, il y a trop d'analyses. Puis oui, il faut que tu analyses. Je savais qu'à quelque part, je serais capable de le faire, mais je savais pas comment.
C'est tellement touché. Les gens vont dire, non, faut t'analyser. Moi, des fois, petite voix, c'est le flair, c'est l'expertise. Ouais. OK, let's go. Après, on va trouver la solution.
Les plus grands entrepreneurs, il y a de l'analyse là-dedans toujours parce qu'on fait pas les choses n'importe comment.
Moi, j'écoutais tout le temps. Là.
Mais il y a beaucoup le feeling là-dedans. Il y a beaucoup... Le feeling est une grosse partie de s'écouter.
Ouais.
Écouter sa petite voix. Puis,
mais ton feeling va bien, en tout cas.
Quand même. Ouais, quand même, ça va bien.
Francis, merci beaucoup.
Tellement.
Merci de nous avoir partagé ça.
Merci à vous.
On connaît encore plus le Francis Lafleur, puis c'est très positif pour tout le monde qui est
content de l'entendre.
Je prends ton au téléphone tantôt pour des conseils, c'est correct?
Certain, ça va me faire plaisir.
Merci.
Absolument.
Merci.
Merci à vous.
Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention.
Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierre décorative. Ils vendent, ils designent, ils installent et ils livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la Salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.